Dans le cadre de nos journées spéciales Congrès international de l'ICEM à Bétheny, découvrez des archives sonores et radiophoniques. En 1982, les élèves d'André Cavaillé de l'école Pelletan de Royan ont interviewé divers invités sur leurs souvenirs d'école sous la Troisième République. En conclusion, vous découvrirez également un enregistrement réalisé au congrès de l'Institut coopératif de l'école moderne en 1965 à Brest, dont le thème central était « L'école laïque, chantier de la démocratie ». C'est un court extrait de la séance d'ouverture dans lequel Célestin Freinet évoque l'importance de l'œuvre scolaire de la Troisième République, mais aussi son inadaptation croissante aux exigences du XXe siècle.
Aimiez-vous l'école ?
J'aimais bien travailler avec les enfants, hein, puis s'amuser pendant les récréations, s'amuser le long de la route à l'occasion, parce qu'on faisait 3 km tous les jours en venant le matin à l'école.
J'ai commencé à aller à l'école, j'avais 5 ans et demi. Mes parents étant métayers, on avait tout le temps quelque chose à faire à la maison, autre que notre travail d'écolier en somme. On était habitués à travailler jeune. L'été, avant de partir à l'école le matin, nous devions aller à soleil levé déjà dans les prés, avec les moutons et les vaches. Nous rentrions à la maison à 8 heures et on prenait vite notre petit sac. On appelait ça une musette, avec un morceau de pain dedans, puis une bricole, et on courait vite faire nos 3 km 500 pour aller à l'école. Et le soir, lorsque nous rentrions le soir, eh bien on faisait un petit collation, un bout de pain, et on allait chercher du pourpier sauvage, ou quelquefois un gros oignon qu'on coupait, qu'on mettait en salade avec un peu de vinaigre et puis un peu de crème, ou un peu de lait, parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter de l'huile. Et puis, aussitôt, il fallait aller garder les moutons et les vaches jusqu'à la tombée de la nuit. On manquait l'école souvent pour aider à faire les travaux. Et puis alors l'hiver, on manquait souvent l'école. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de parapluie. On n'avait pas d'argent pour s'acheter un ciré, pour se mettre dessus, un imperméable. Et on n'avait pas de bicyclette ni car qui nous ramassait, comme aujourd'hui. Alors il fallait faire nos 3 km 500 à pied. Alors vraiment, quand il faisait trop vilain, les parents nous disaient, ah ben, tu n'iras pas à l'école aujourd'hui, puis tu iras demain, ou tantôt s'il fait beau, etc. Alors nous manquions souvent à l'école, on ne peut pas arriver à apprendre comme il faut, ce n'est pas possible. À 12 ans, mes parents m'ont dit, maintenant tu ne vas plus à l'école. Et ça vaut des champs, d'abord, maintenant l'école, maintenant c'est terminé.
Y avait-il des dames de cantine ?
Oh non, il n'y avait pas de cantine du tout, ça n'existait pas. Les enfants mangeaient avec ce qu'ils apportaient dans leur panier.
À midi, on mangeait souvent dehors avec le bissac sur le dos. On mangeait caché derrière les haies pour se protéger du vent de nord. Ou on mangeait un bout de viande, de saucisse ou de boudin à l'occasion, avec son pain, et on s'amusait à courir en même temps pendant qu'on mangeait. Seulement après, ça a été perfectionné parce qu'on a mangé dans la classe quand il faisait trop froid. Mais généralement, on aimait mieux être dehors.
Comment étiez-vous habillé ?
Oh, avec tout simplement un grand sarrau, comme tout le monde, gris ou noir, suivant l'occasion, et puis avec des gros souliers, à peu près toute l'année. Des gros souliers à semelles de bois.
Est-ce que c'était une classe mixte ?
Non. Les filles étaient d'un côté, les garçons étaient de l'autre. Il y avait une classe de 52 gosses. Il y avait un banc, au fond, pour les plus petits, parce qu'il n'y avait pas dans la classe pour les asseoir. Alors, ils s'assoyaient sur le banc pour lire dans leurs livres, et ils se mettaient à genoux devant le banc pour écrire.
Est-ce que les tables étaient comme maintenant ?
Il y avait une grande table avec un grand banc tout le long. Ça faisait quelquefois 6 places qui se touchaient les unes les autres. Et puis on se poussait, tu sais, pour faire de la place. On prenait plaisir à se bousculer.
Comment étiez-vous éclairé ?
On n'avait généralement pas d'éclairage, sauf une lampe à pétrole avec un abat-jour. Le soir, on était généralement sortis quand le noir arrivait. Il y avait un poêle à l'école pour chauffer la classe. Et les premiers qui arrivaient préparaient le feu, cassaient le bois pour que tout le monde se chauffe bien en arrivant.
Comment avez-vous appris à lire ?
On lisait surtout au tableau. Des grands tableaux qui étaient écrits en noir et en bleu par syllabes qui se détachaient les unes des autres. Et puis, quand on savait bien les syllabes, on les assemblait.
Le premier livre de lecture que j'ai eu était un livre de couverture verte, avec à la fin un zouave pour le Z.
Avec quoi écriviez-vous au tout début ?
Au début avec un crayon, mais pas longtemps. On a eu le porte-plume très vite. On a commencé par faire des bâtons, et puis aussitôt après on s'est amusé à faire les lettres, comme on devait les faire, avec un porte-plume alors là.
Pour l'apprentissage de calcul, on chantait en quelque sorte les tables de multiplication. J'ai chanté 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3. Dans la première classe, on a commencé évidemment à me faire des leçons d'histoire et de géographie. J'ai peiné pour la géographie parce qu'on exigeait de moi à savoir par cœur avec des termes qui n'étaient pas à ma portée. Lorsqu'il a fallu réciter les petites définitions géographiques, vous voyez, qu'est-ce qu'un golfe, qu'est-ce qu'un cap, qu'est-ce qu'une péninsule, je comprenais bien ce que c'était, mais on voulait me le faire dire exactement comme sur le livre, alors que moi, ce n'était pas les thèmes que j'aurais employés.
Il y avait des cartes de géographie, la carte de France, des cours d'eau, des montagnes et des départements avec les provinces qu'on apprenait à ce moment-là.
Quant à l'histoire de France, nous avons eu un instituteur qui nous montrait des images. Alors naturellement, là j'étais enthousiasmé, en particulier sur la période révolutionnaire, la guillotine, les noyades de Nantes. J'aime mieux vous dire que ça m'a impressionné.
Et quand je me suis présenté au certificat d'études, j'ai eu « Quel est le personnage de l'histoire de France que vous aimez, enfin ?» Vous ne devineriez jamais qui j'avais mis.
Napoléon.
Non. Toutes les autres avaient mis Jeanne d'Arc. Et moi, j'avais mis Richelieu.
Pourquoi Richelieu ?
Richelieu, parce qu'il a fait obéir les grands. Quand j'ai dit ça à maman, elle n'était pas enchantée, elle.
Et Napoléon, pourquoi vous l'admirez ?
Ah, mais parce qu'il était vainqueur. Et puis, ça flattait l'imagination.
La classe, c'est... Terminé à 13 ans, n'oubliez pas. Le but était très simple. Il fallait, en un minimum de temps, arriver à ce fameux certificat d'études qui créait une séparation entre ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas. Ceux qui avaient le certificat d'études se sentaient tout de même tirés de l'ornière. Les enfants avaient un acquis, à cette époque-là, en lecture, en orthographe, en calcul, qui leur permettait des choses que vous ne soupçonnez pas. Et leurs parents en éprouvaient une certaine fierté. Leur enfant est reçu au certificat d'études.
Et vous voyez, ça se continuait ensuite, parce que l'hiver, pendant 3 mois, on faisait les cours d'adultes. Eh bien, il y en avait jusqu'à 20 ans qui venaient le soir.
Est-ce que vous faisiez de l'anglais ?
Oh non, on apprenait le français, parce que moi j'étais institutrice en campagne. Il parlait pas toi.
Votre maître était-il sévère ?
Tout le monde s'occupait de travailler, c'était tout. Alors le maître n'avait pas de raison de nous gronder. On faisait toujours tout ce qu'on pouvait.
Quand on jouait dans la cour, voyez-vous, au premier coup de sifflet, tout le monde se mettait au rang. Personne ne bronchait, tout le monde était aligné. Et on devait monter tout doucement, accrocher nos affaires doucement au porte-manteau. Voilà. Quand les enfants étaient sages, on leur donnait des croix. Il y avait une croix simple et une croix d'honneur. Ah, une très jolie croix dorée, qu'on mettait avec un beau ruban, qu'on épinglait et qu'on distribuait en fin de semaine. Et voilà. Quand madame la directrice rentrait dans la salle, tous les élèves se levaient. Il y avait beaucoup de respect, beaucoup de tenue.
Les parents avaient confiance dans l'instituteur, ils lui confiaient leurs enfants tout simplement. C'était surtout, je crois, l'influence de la famille qui se transmettait aussi bien à l'école.
Est-ce que vous faisiez des leçons de morale ?
Ah, bien sûr, tous les matins. et des leçons d'instruction civique. On faisait toujours qu'il fallait obéir à sa maman, à ses parents, qu'il fallait être poli, qu'il fallait être complaisant, qu'il ne fallait pas mentir, de toutes choses. Est-ce que je sais, moi ? Tous les matins, on regardait les mains et les oreilles. Et il fallait que ce soit propre. Ceux qui n'étaient pas propres, on les envoyait à la pompe.
Il y avait des leçons sur le mensonge, voyez-vous. L'intolérance, la tolérance, des leçons sur le vol. En somme, c'était l'enseignement religieux avec l'absence de Dieu. C'est tout. Pour tâcher de gagner la population à l'école laïque, les instituteurs ont toujours fait une distribution des prix, qui était en somme la fête de fin de classe. Et à cette distribution des prix, il y avait des chants. J'ai appris la Marseillaise, car évidemment, il fallait chanter la Marseillaise, qui était un peu un chant séditieux à l'époque.
Cette journée des prix, voyez-vous, c'est cette journée qui m'a marqué énormément. Alors là, ma mère m'avait acheté ma première belle petite robe. Ça, alors, on avait été à la Samaritaine à Paris. Et alors là, j'étais toute heureuse parce qu'on avait un prix. On était appelés par le maître qui se trouvait là avec madame la directrice et tout ça. Et il y avait le prix d'honneur. Et j'ai eu un beau livre. Et puis alors, on nous mettait une belle couronne avec des toutes petites trousses faites en papier, vous savez, sur la tête, comme ça, ce jour-là. Oh, ça, j'étais heureuse. Vous ne pouvez pas vous faire une idée. Oh oui.
Qu'est-ce que ça représentait, être un instituteur laïque à cette époque-là ?
Eh bien, c'était de laisser les gens libres de penser au point de vue religieux. C'était surtout la grosse question. L'instituteur, en général, il était secrétaire de mairie, mais il était le serviteur de toute la population. Il n'y avait que lui qui savait écrire, libeller une lettre, demander un secours, et qui savait intervenir. Il suffisait qu'il sache qu'il y avait un enfant malade pour essayer de le faire soigner. Ils étaient plus qu'instituteurs. Ils étaient le conseiller de la commune.
Je n'avais en réalité aucun pouvoir. Je n'ai jamais aimé prendre un pouvoir, voyez-vous. J'avais estime. Je n'avais pas pouvoir. Mais je sentais mon influence. C'était plutôt une sorte de respect pour le savoir.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous dis bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. À l'école des grés, à l'école des grés, à l'école des grésillons.
J'ai commencé mon métier d'institutrice comme ça. Il y avait une école libre qui fonctionnait bien et qui cherchait à prendre les élèves de l'école laïque. Et c'est comme ça que j'ai connu la bataille de l'école laïque. Les élèves de l'école libre allaient sur la route attendre mes élèves pour les entraîner à leur école. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai été sur la route, moi aussi. J'ai dit, où allez-vous? Je mettrai les gendarmes après vous. J'ai défendu l'école, bien entendu. Le maire s'en est énervé et il a mis Lola auprès des parents de ses gosses. Et ma foi, j'ai gagné. J'ai passé mon CAP l'année d'après. À ce moment-là, je tombe avec un curé qui m'avait connu enfant, avec qui j'avais été au catéchisme. Ah, il s'y croyait tout permis avec moi. Il s'arrangeait toujours pour m'envoyer les gosses du catéchisme en retard à une heure. J'étais toujours rentrée en classe quand il me les envoyait. Je l'ai bien accepté pendant quelque temps. Mais un beau jour, je me suis gendarmée. Après, ils sont venus plus à l'heure. Mais la guerre était déclarée. Alors, il a fait des prêches contre les livres qui étaient à l'index. Le Gautier des Champs et le Paul Bert, que l'Église défendait. Or, je les avais dans ma classe et je les ai gardés.
Pourquoi a-t-on créé à une certaine époque les bataillons scolaires ?
Les bataillons scolaires ont été la conséquence de la défaite de 1870 et de ce bourrage intense qui a été fait après 1870 pour réparer la revanche et une volonté de la droite comme de la gauche de réparer cette défaite, de reconquérir l'Alsace et la Lorraine. On faisait manœuvrer avec les petits fusils, ils apprenaient à présenter les armes, à porter l'arme sur l'épaule, voyez-vous, à marcher au pas, ce qu'on appelait à l'armée autrefois, le maniement d'armes. Je crois aussi que les dirigeants de la bourgeoisie voyaient dans les bataillons scolaires un moyen déjà d'habituer les gens à être embrigadés. Car ça permettait de prendre les enfants en main, voyez-vous, et puis ça les habituait à la discipline. Car on voulait que les gens soient disciplinés. Si les gens sont disciplinés à l'armée, ils sont aussi disciplinés à l'usine. C'était la théorie, voyez-vous.
Quand j'allais à l'école, moi, à cette époque-là, eh bien, il ne fallait pas dire rentrer à la maison, ah, « Maman, le maître, il m'a battu. »« Il t'a battu, qu'est-ce que t'as fait ?»« Pam, pam !» C'était une paire de gifles. Tandis que maintenant, les parents vont à l'école, et ils engagent l'instituteur, et tout de suite, ils ne le battent pas. Hein? C'est-il vrai ou pas vrai? J'estime que il fallait peut-être un peu de liberté. Mais, à mon avis, maintenant, il y en a beaucoup trop, on soutient beaucoup trop les enfants, d'ailleurs, ils sont très mal éduqués. Aussi bien à la maison, où ils ripostent à leurs parents, ils ont 3 ans déjà, qu'ils se rebiffent à leurs parents, et ils font ce qu'ils veulent, on dit toujours amen quand ils demandent quelque chose. Il faut leur donner, et quand on leur dit de faire quelque chose, ils ne veulent pas le faire. Mais alors, c'est nous, quand on nous commandait quelque chose, ben, on avait intérêt de le faire, hein. Mais on ne nous battait jamais, parce qu'on était disciplinés, on le faisait. Il y avait les foins à faire, il y avait à planter des pommes de terre, on aidait à planter des pommes de terre, il y avait pour les betteraves, les éclaircir, on avait après les moissons, ça aidait énormément parce qu'on ne pouvait pas suivre les cours qui se faisaient à l'école. Et ben, on manquait l'école 2 jours. Quand on arrivait le 3e jour, par exemple, ben, on n'était plus au courant de ce qui s'était fait, on ne savait rien du tout. Hein? On ne pouvait pas revenir en arrière. Il m'arrive quand même de... C'est pas que je regrette, mais de comparer avec les classes d'aujourd'hui.
Papa disait toujours, il faut pas négliger les gens de la campagne, parce qu'il a toujours été instituteur en campagne. Et il faisait les cours d'adultes, qui étaient suivis régulièrement. Il a présenté certains de ses élèves de cours d'adultes au brevet dans le temps. Et savez-vous qu'il a appris à lire à des gosses qui n'avaient pas été à l'école par curie des parents, négligence. Et savez-vous qui les faisait lire au cours d'adultes? C'était moi. Et j'étais très fière, j'avais 10 ans, il y en avait qui avaient 17 ans. Mais ils acceptaient très bien.
J'ai quitté l'école à 13 ans. Et je suis entré à ce moment-là comme facteur de télégraphe à la poste de la machine. L'instituteur avait dit à mes parents, je continuerai de lui donner des cours et il pourra préparer le surnuméraria des postes. Et de sorte que j'ai travaillé pendant environ 1 an et demi à la poste de la machine comme facteur de télégraphe. Mais je me suis rendu compte à la poste de moi-même que ma base était très faible pour pouvoir arriver au surnuméraria. Et j'en ai parlé à l'instituteur. Il a convenu, il a dit oui, c'est vrai, reviens à l'école. Et je suis retourné à l'école. À ce moment-là, l'instituteur s'était mis en tête de former un petit cours supérieur qui aurait permis de préparer au brevet élémentaire comme le faisait déjà l'école de filles laïques, parce qu'elle préparait au brevet élémentaire les jeunes filles qui ainsi pouvaient entrer soit dans les postes, soit même à l'école normale. L'inspecteur, cette année-là, s'est trouvé à venir, plutôt que d'habitude, à regarder mon travail et à dire à l'instituteur, il faut le préparer à l'école normale. Ma mère, elle a hésité un petit peu, mais très enthousiaste. Elle a compté sur le crédit, voyez-vous, pour pouvoir acheter le trousseau qui me permettait d'entrer à l'école normale. J'ai été reçu au brevet élémentaire en 1914. J'ai passé l'examen d'entrée à l'école normale à Varzy. Et j'ai été reçu. Voyez-vous. C'est comme ça que je suis à l'école normale, tout à fait par hasard. Voyez. Je n'étais pas destiné à faire un instituteur.
J'ai eu des classes de toutes sortes. Quand je suis arrivé dans cette classe-là, moi, je me suis aperçu que les élèves, il y en avait 52, arrivaient tous les matins après avoir bu un petit verre d'eau-de-vie. Alors, ils sentaient la goutte à plein nez. J'ai fait un jour une leçon de morale, et puis j'aurais dit, mes petits-enfants, vous êtes bien mignons, je suis bien content d'être avec vous, seulement il y a quelque chose qui me fait très mal. Vous buvez la goutte? Oui, monsieur. Ah. Eh bien, j'ai dit, c'est très mauvais pour vous, mais pour moi, c'est encore plus mauvais. Je viens d'être très malade, et quand je vais auprès de vous, ça sent l'eau de vie, ça me fait très mal, et j'en ai pas pour longtemps pour vous quitter. Alors, si vous continuez à boire, moi, je m'en irai. Et alors, au bout de quelque temps, ça diminuait tous les jours. Ça diminuait et a diminué. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, plus un gosse n'arrivait à boire la goutte. À tel point qu'ils étaient, c'est qu'un jour, je me suis trouvé à la gare, et il y avait une grand-mère qui sortait de la messe avec son petit gosse, que j'avais dans ma classe, et elle m'a dit, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais depuis qu'il va avec vous, il n'y a plus moyen de lui faire boire la goutte. Ainsi, il arrive là ce matin, eh bien, il n'a rien dans le ventre, eh bien, au lieu de boire son mélécassi comme moi, il dit, n'en veut pas, parce que vous l'avez défendu. Eh bien, je dis, il a raison. Et je suis bien content que vous me disiez ça, au contraire. Parce que vous, si ça vous fait du bien, lui, ça ne peut lui faire que du mal.
Vous faisiez faire à vos élèves tout ce que vos maîtres vous faisiez faire avant?
Ah, mais il y a bien des choses que j'ai adaptées, moi aussi, hein. En rédaction, les enfants ont appris à faire les rédactions avec moi. Leur rédaction avait un plan. Du premier coup d'œil, on le voyait. Il y avait toujours l'introduction, le développement et la conclusion. Nettement séparés, voilà. Et quand on avait une correction à faire, eh bien, on la faisait au tableau. Alors, on disait maintenant, les phrases, voyons, sont-elles bien faites? Ah non, et là, il aurait pu mettre un adjectif. Là, il aurait pu mettre un complément. Alors, on le faisait sur un tableau à côté. On avait un tableau différent. Et puis alors, quand le devoir était fait, tout le monde avait travaillé, il y avait un nouveau devoir qui ne ressemblait plus au premier. Voilà.
Alliez-vous parfois dans la nature pour faire la classe?
Ah, c'est arrivé. Quand j'étais ici, dans l'île de Léron, où les enfants travaillaient extrêmement vite, il me restait tous les soirs, environ une demi-heure, trois quarts d'heure, on s'en allait dans le champ à tout le monde, et puis on faisait de apprendre à arpenter.
L'école laïque a incontestablement rendu de grands services à la démocratie. Elle a eu, au début du siècle, sa période héroïque, au cours de laquelle les éducateurs croyaient à leur sacerdoce, où instruire le peuple était une première mission sacrée. Les méthodes elles-mêmes, qui peuvent nous paraître aujourd'hui retardataires, étaient en avance sur la technique et sur le milieu. Cette période héroïque où la laïcité se manifestait tant à la fois par un dévouement sans limite à la tâche d'éducation que par une lutte sans merci contre l'obscurantisme et la réaction de l'Église. Mais la question se posera ensuite à nous. Parce que l'école laïque a rendu dans le passé des services éminents, devons-nous la conserver coûte que coûte, telle qu'elle était autrefois, même si elle ne répond plus aux besoins du présent et de l'avenir. Ou bien, fidèles à l'idée de progrès des grands créateurs de l'école laïque, serons-nous capables d'examiner la situation avec bon sens et clairvoyance, sans parti pris, voir ce qui ne va pas dans la situation actuelle de l'école laïque, essayer de détecter pourquoi elle n'est plus cet élément de progrès et de lutte qu'elle était au début du siècle. Critiquer les méthodes actuelles de l'école laïque n'est nullement attaquer cette école, c'est au contraire tâcher de lui donner la vitalité de naguère, lui trouver un nouvel esprit qui mobilise pour notre lutte commune, éducateurs, parents, enfants. Si nous remplaçons les techniques et les méthodes qui en bloquent l'évolution par d'autres techniques libératrices, alors l'école laïque reprendra sa vraie figure de chantier de la démocratie.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Hey, 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 hey.
Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous, et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier.
Oui, pour prier.
Pour prier.
Oui, pour prier.
Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré.
J'ai pleuré.
J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que
non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Hey, 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 hey.
Moi je pense à l'enfant entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps.
Oui, tout le temps.
Tout le temps. Je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas. Et pourtant,
oui, et pourtant.
Et pourtant, je chante, je chante.
Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Non, non.